Bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement des territoires, du territoire. Désolé, la surprise annoncée dans l'épisode précédent est reportée à plus tard, car il me faut d'abord répondre aux observations entendues sur les précédents épisodes. Alors, quelles sont ces observations? Vous êtes trop abstrait. Ça manque d'exemples, de témoignages. Ou alors, tu ne cites pas assez de cas pratiques, me disait encore ma fille récemment. Vous avez raison. D'autant que ces exemples sont en fait nombreux, variés, et qu'on en parle très peu. C'est donc l'occasion d'en citer quelques-uns, à toutes les échelles de territoire, en partant de mes très chères petites cités de caractère, en passant par les villes et pays, jusqu'aux expériences plus lointaines. Désolé de ne pas pouvoir en citer plus qu'il ne l'est. Cet épisode intitulé « Exemplarité locale » est déjà long et les exemples sont certainement très très nombreux. Les premiers concernent les initiatives exemplaires prises par les petites villes qui ont rejoint le réseau des petites cités de caractère de France. Les seconds par ceux qui ont rejoint le réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Et je terminerai à l'international. Alors pour commencer, rappelons que le projet des petites cités de caractère part d'une initiative locale qui consiste à fédérer les différents acteurs autour d'un objectif qu'on pourrait résumer ainsi, culture et patrimoine comme levier de développement durable avec et pour les habitants. Le concept permet de valoriser des communes atypiques car à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée et urbaines par leur histoire et leur patrimoine. Les petites cités de caractère de France constituent un réseau français de près de 200 petites villes de moins de 10 000 habitants. Nous sommes dans un processus d'accompagnement, pas dans la qualification d'une démarche aboutie, a précisé Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, présidente de l'association Petites cités de caractère de France, et Laurent Mazurier, son directeur. Les communes labellisables doivent toutes avoir un programme pluriannuel de restauration, de réhabilitation, de revitalisation et de mise en valeur de leur patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Les témoignages suivants sont extraits de la note méthodologique qui a permis la réalisation d'un guide des élus pour l'élaboration de leur programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines, toujours matériel et immatériel. Je vous conseille de lire plus en détail le document d'où sont extraits ces exemples. Ils sont sur le site des petites cités de caractère, www.petitescitesdecaractere.com. Donc le premier exemple, c'est dans le Pays de la Loire. Un partenariat entre les petites cités de caractère, la région Pays de la Loire, qui soutient techniquement et financièrement ce projet, et l'Office du patrimoine culturel immatériel, Ethnodoc, ce partenariat a permis un travail de fond. Une thématique est retenue afin de mettre en avant un des caractères de chacune des cités. Ce travail permet d'élargir l'approche du patrimoine et nourrit ensuite le projet de développement de la commune. Notez l'expérimentation pour une démarche conjointe d'inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel à Lassay-les-Châteaux, qui contribue à la mise en récit de la cité et enrichit les parcours de découverte. Je trouve que ce terme « mise en récit » est particulièrement intéressant. Dans les Landes, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, le CAUE, accompagne les communes dans la mise en projet. À Gaume, par exemple, une méthodologie originale a été mise en place par le maître d'œuvre, qui est l'agence Entrelieux, avec un travail de mise en récit du patrimoine qui a précédé la réflexion sur le projet urbain, architectural et paysager. Un travail de mise en récit qui précède la réflexion sur le projet urbain. La connexion toujours recherchée entre l'urbanisme, le patrimoine et le tourisme se fait à partir de la mise en récit. En Nouvelle-Aquitaine, chaque commune adhérant à l'association se voit proposer l'animation d'ateliers révélation. L'objectif des ateliers est de se poser avant le projet pour un temps partagé autour de quelques questions. Qu'est-ce qui nous rassemble? Où voulons-nous aller ensemble? Comment voyons-nous notre cité dans 10 ans? Quel est notre patrimoine? Animés par un architecte urbaniste, metteur en scène, ces ateliers nourrissent le projet de la cité dans toutes ses déclinaisons. En Bretagne, chaque petite cité de caractère définit son programme d'aménagement du patrimoine. Ces programmes, à 3-4 ans, identifient les axes sur lesquels la commune souhaite travailler et posent ainsi une feuille de route des opérations prévues. Réalisé le plus souvent en interne avec l'accompagnement de l'animatrice régionale des petites cités de caractère, Claire Lucas, ces programmes peuvent aussi bien traiter de grosses opérations sur le bâti public que d'accompagnement de propriétaires privés, travaux avec des commerçants, mise en tourisme, etc. C'est sur la base de ce programme pluriannuel que le Conseil régional de Bretagne mobilise un soutien financier aux petites cités de caractère. À Hervy-le-Châtel, dans l'Aube, la municipalité, portée par son maire Roger Bataille, a défini en début de mandat un projet pluriannuel autour d'une thématique, en l'occurrence le vitrail, au vu des superbes vitraux de l'église du bourg. Ce projet a été décliné en plusieurs opérations sur immeubles liées par des interventions sur les espaces publics. L'abbatiale, la transformation de l'ancienne prison en centre d'interprétation du vitrail, la restauration d'un îlot en vue de l'accueil des maîtres verriers, etc. La définition d'un programme n'est évidemment pas un carcan fermé. En cours de mandat, la sauvegarde de la pharmacie, menacée de départ, a par exemple mobilisé la population et a permis de faire une opération de restauration d'un immeuble dans le centre de la cité qui n'était pas initialement prévu dans le programme municipal. Dans le Cantal, le CAUE, Conseil en architecture, urbanisme, environnement, accompagne les communes par la formalisation de projets architecturaux, urbains, patrimoniaux et paysagers pluriannuels. Construit à partir d'un regard global sur la cité et de l'identité territoriale locale, ces travaux sont un modèle d'accompagnement des petites communes pour la définition d'un projet patrimonial. Par exemple, à Saint-Urcize, qui est une petite cité de caractère à la porte d'entrée du parc naturel régional de l'Aubrac. Pour finir, faisons un zoom sur le pays de Chaumont. D'année en année, les petites cités de caractère du pays de Chaumont, qui sont Château-Villain, Vignory, Bourmont, donc ces petites cités de caractère gagnent en attractivité, notamment sous l'impulsion du syndicat mixte du pays de Chaumont, qui a vocation à les fédérer autour d'actions communes. Ce sont des actions d'animation, comme les visites humoristiques, de mise en valeur des patrimoines, comme des productions locales, au sein des marchés de soirée, etc. Ils développent des outils de communication sur l'interprétation du patrimoine innovant, par des films promotionnels, des parcours, énigmes, etc. Ces deux dernières années, cette coopération a été étendue à une autre petite cité de caractère haut-marnaise, Joinville, et est déjà envisagée avec la dernière arrivée, Montsaujon. Bénéficiant ainsi du soutien en ingénierie du syndicat mixte du pays de Chaumont, de contributions financières de la région Grand Est et de l'Europe, programme leader, les petites cités voient donc, à travers cette mise en réseau départemental, s'accroître leur rayonnement au profit du territoire. Évoquons maintenant les villes et pays d'art et d'histoire. Créé en 1985, le label Ville ou Pays d'art et d'histoire, VPH, est attribué par le ou la ministre de la Culture, après avis du Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire, aux communes ou aux groupements de communes qui engagent une politique de reconnaissance et de valorisation des atouts culturels et patrimoniaux, une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l'architecture et des sites. L'ensemble des villes et pays d'art et d'histoire constitue aujourd'hui un réseau national de plus de 200 villes ou pays. Le Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire, dont j'ai longtemps été membre, donne donc un avis au ministre de la Culture sur les candidatures portées par les élus locaux. J'y ai constaté ces dernières années une forte évolution des motivations locales. Il y a plus de 20 ans, l'objectif était essentiellement touristique, et donc économique, faire valoir son patrimoine pour attirer des visiteurs. Mais progressivement, s'est affirmé en priorité le souci de se doter d'un véritable projet, d'un projet culturel ancré dans la politique et le projet de vie de la ville ou du pays. Par curiosité, j'ai analysé les dossiers des communes ou communautés de communes candidates sur une période de 5 ans précédant mon départ du Conseil national, je suis parti en 2015. Certains dossiers marquent plus que d'autres cette tendance. Citons tout d'abord la ville de Pau, dont le titre du dossier de candidature s'avère très révélateur. Le titre du dossier était « Le projet urbain et les nouveaux enjeux du XXIe siècle ». Il était suivi par une première page, un premier chapitre, intitulé « la diversité en héritage, probablement en référence à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui fut adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2005 et dont on parle tellement peu dans les milieux ministériels. Dans le chapitre du dossier de candidature, je note « La ville de Pau développe une approche globale du projet urbain, intégrant les préoccupations du développement durable et la valorisation du patrimoine bâti et paysager. Cette conception donne les orientations d'un urbanisme conciliant patrimoine historique, naturel et bâti et développement contemporain. » Metz. Pour sa part, la ville de Metz affirme dans son dossier, je cite, « La ville de Metz est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche alliant l'urbanisme, la qualité architecturale, l'histoire locale et la culture profondément imbriquées. Ses points de vue dialoguent au fil des projets. » Fin de citation. Elle poursuit en expliquant « La protection ne concerne plus les éléments remarquables, mais des quartiers dans leur totalité qui sont considérés comme des témoins de civilisation. » Des quartiers qui sont considérés comme des témoins de civilisation. Ces orientations sont accompagnées d'engagements concrets. La ville de Metz a récemment doublé ou triplé la surface de son plan de sauvegarde et de mise en valeur. Strasbourg. La ville de Strasbourg, je cite, « consciente de l'atout que représente son patrimoine, s'engage pour la conservation et la valorisation. Il s'agit de construire la ville de demain avec le patrimoine sans la muséifier et de permettre à la ville historique un développement conforme à celui d'une métropole moderne, attractive, créative et durable. » Personnellement, je trouve qu'ils ont relativement bien réussi les choses. Cognac. La ville de Cognac s'exprime ainsi. Depuis plusieurs années, la volonté de la ville est de se donner les moyens d'être la propre actrice de son évolution. Cela se traduit par le lancement de démarches complémentaires, le plan local d'urbanisme, la zone de protection du patrimoine et l'agenda 21. Qui vise à protéger et à valoriser le cadre de vie. Fin de citation. Un candidat relativement atypique qui a été la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, ville nouvelle, a obtenu le label en 2011. Lorsqu'elle a présenté son dossier, le Conseil national s'était interrogé sur la pertinence de la création d'espaces protégés dans une ville nouvelle. En général, le Conseil national conseille aux élus locaux la mise en œuvre ou le développement d'outils de protection pour accompagner le projet. La question est restée en suspens. Un autre cas encore plus atypique, la communauté d'agglomération de Plaine Commune, située dans le département de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. La communauté d'agglomération Plaine Commune a obtenu à l'unanimité le label Pays d'art et d'histoire. Son président, Patrick Braouzec, a tenu des propos qui lui ont valu les félicitations du Conseil. Je cite « Le regroupement de Plaine Commune s'est fait sur la reconnaissance d'une histoire et d'un destin commun et la volonté de redonner des perspectives de développement à un territoire meurtri, tout en préservant une identité et un patrimoine forgés au fil du temps. » Pour lui, la « carte d'identité » entre guillemets de Plaine Commune présente plusieurs facettes. Les expérimentations des grands ensembles, le patrimoine industriel, le patrimoine naturel et la culture vivante, sur laquelle je m'arrêterai. Patrice Braouzec nous a expliqué que la culture en Seine-Saint-Denis était notamment constituée de la conjugaison des cultures issues de l'immigration. La construction d'un projet culturel doit se faire sur la base du vivre ensemble de ces cultures, indispensable pour garantir un développement urbain soutenable au sens de « qui peut se supporter sans durer ». Or, il constate que ce dialogue interculturel est apparu plus facile à engager dans les lieux du patrimoine, patrimoine au sens large, bien sûr, on pense notamment aux halles ferroviaires dites les cathédrales du rail, ou à Saint-Denis, aux anciennes usines Badcock à la Courneuve, etc. Le label donné à Plaine Commune est d'autant plus intéressant qu'il ouvre la porte sur une conception large des patrimoines, rejoignant ainsi les ouvertures avancées au niveau international, mais on y reviendra. Loin des métropoles, très loin, et à plus grande échelle, Épinal, cœur des Vosges, a développé son pays d'art et d'histoire autour d'un projet particulièrement intéressant, qu'il était prévu d'étendre à terme sur 228 communes. Comment s'organiser politiquement, économiquement et socialement pour exister sur des bases culturelles alors que le pays est très loin de toute métropole ? Comment éviter d'être relégué et considéré par ces mêmes métropoles éloignées comme des délaissés pour les personnes âgées et pour les touristes. Des initiatives ont été engagées en Corrèze, dans le pays d'arrêt d'histoire de Vézère-Ardoise, étendu en 2011 à 44 communes. Bernadette Bourzaille, sénatrice de Corrèze, s'exprimait ainsi dans le dossier de candidature. Le label Pays d'arrêt d'histoire reconnaît l'identité d'un territoire sur la base de ses qualités patrimoniales et architecturales. C'est aussi un projet au service de ses habitants et de leur cadre de vie. Envisager l'avenir en s'appuyant sur le respect des richesses en matière d'urbanisme, de paysage et de culture s'inscrit pleinement dans la démarche de développement local et durable du territoire. Enfin, pour terminer, je citerai le parc naturel du Vexin français, dont le président demande le label Pays d'arrêt d'histoire, parce que, je cite, « culture et nature doivent se conjuguer et s'articuler autour de l'homme, placé au cœur des patrimoines ». Tous ces exemples prouvent, si besoin, que de nombreuses villes et pays sont à l'initiative de changements profonds, intégrant la dimension culturelle et patrimoniale dans les processus de développement durable. Notez, s'il vous plaît, l'importance des expressions et des mots utilisés dans les citations qui précèdent. Leur regroupement ouvre des perspectives intéressantes. Je cite « la diversité en héritage »,« urbanisme et culture sont profondément imbriqués », »,« ces points de vue dialoguent au fil des projets », »,« des quartiers considérés comme des témoins de civilisation », et je crois que c'est un maire de gauche et non du Rassemblement national qui s'exprime ainsi. Aider à vivre ensemble différentes cultures. La ville, être sa propre actrice de son évolution. Culture et nature doivent se conjuguer et s'articuler autour de l'homme placé au cœur des patrimoines, etc., etc. Nos propres institutions nationales peinent à saisir ces phénomènes qui viennent du terrain et à en tirer parti. Difficile de faire passer ces idées. Par exemple, lorsqu'en 2007, à la première réunion d'un groupe de travail préparant le Grenelle de l'environnement, représentant mon propre ministère, j'ai évoqué la culture comme quatrième pilier du développement durable, reprenant ainsi les propos du président de la République au sommet de la Terre en 2002 à Johannesburg, je vous en ai parlé précédemment. J'ai tout simplement été exclu de ce groupe de travail et n'ai jamais été réinvité aux suivantes. Sans commentaire. Philippe Madec, architecte lauréat du Global Award for Sustainable Architecture en 2018, analysait ainsi la situation dans un entretien avec Dominique Gauzin-Muller. Cet entretien est extrait de la revue Écologique avec un K, d'août et septembre 2010. Cet entretien était intitulé « Le trait d'union, culture et développement durable ». Je cite Philippe Madec. Lorsqu'on recherche le mot « culture » dans le texte de la loi Grenelle, l'on trouve 20 occurrences. Il est cité 17 fois dans « agriculture », une fois dans « sylviculture » et deux fois au sujet des cultures des protéagineux et autres légumineux. Puis des cultures dites « mineures » à propos de la réduction des usages des biocides. Quant au mot « architecture », il est introuvable. La réalité le montre. Dans le texte et hors du texte, l'architecture flotte à présent dans un quelque part flou entre une technique hégémonique, HQE, autre qualité environnementale, passif, BBC, photovoltaïque, puits canadien, double flux, isolation par l'extérieur, UBAT, etc., etc. Et un destin de ville présenté sous le seul horizon métropolitain. On ne peut qu'en être accablé. Pourquoi est-ce possible ? Sans doute parce que l'hégémonie de la réponse technique à la crise environnementale court-circuite la culture. L'hégémonie de la réponse technique à la crise environnementale court-circuite la culture. Alors, quelques pays ont tenté d'éviter de court-circuiter la culture. Prenons par exemple la loi sur le développement durable du Québec. Le Québec, la province du Canada. Entrée en vigueur en avril 2006, qui stipule dans son article 7 c'est l'article 7 de la loi sur le développement durable et non pas la loi sur le patrimoine. Donc l'article 7 de cette loi sur le développement durable. Le patrimoine culturel constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoir-faire reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Plusieurs textes internationaux de référence relatifs au patrimoine et au développement durable ont été publiés. Ils s'avèrent assez peu connus en France, et c'est peu dire. Je citerai notamment la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite Convention de Faro. Je cite « Dans une société de plus en plus mondialisée, la recherche d'attache et d'enracinement répond aux besoins d'appartenance et d'identification des individus. La Convention de Faro aborde la question du pourquoi et du pour qui transmettre le patrimoine. » Je reviendrai dans un prochain podcast sur les droits culturels et sur cette Convention de Faro. Plusieurs États aujourd'hui confrontés à la montée en puissance de phénomènes culturels et identitaires sont intéressés par l'expérience française. Avec le sénateur honoraire Yves Dauge, conseiller auprès du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, initiateur et longtemps co-président du Partenariat français pour la ville et des territoires, PFVT, j'avais constitué en 2014, avec l'aide de ma collègue Jeanne Montagnon, un groupe de travail plurinational en vue d'organiser un événement s'inscrivant dans le cadre du 7e Forum urbain mondial à Medellín, en Colombie. Notre projet commun porté par le ministère de la Culture fut sélectionné par ONU Habitat. ONU Habitat, c'est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies. Il visait à renforcer la bonne gouvernance pour revitaliser durablement les villes historiques. Notre groupe de travail a exposé son savoir-faire dans le cadre du forum. Il était composé de personnalités indiennes, bulgares, boliviennes, colombiennes, chinoises et françaises, toutes partenaires de coopération avec la France sur des actions relatives à la culture et au patrimoine dans les villes et dans les territoires. La France est partout reconnue comme un pays de culture et le pays des droits de l'homme. Or, culture et droits de l'homme conjugués se traduisent en termes d'urbanité. Notre travail commun a été fondé sur ce souci d'urbanité et de qualité du cadre de vie. À Medellín, cette même année, dans ce même forum, la vice-ministre colombienne de la Culture, Maria Claudia López Sorzano, participait activement au Forum urbain mondial. Architecte de formation et diplômée de l'école de Chaillot, cité de l'architecture du patrimoine à Paris, elle y avait organisé un événement sur les paysages du café, pour lequel elle avait réuni des experts colombiens de plusieurs disciplines. Économie, écologie, sociologie et culture, bien entendu. Son objectif n'était pas de faire valoir la protection de ces territoires, mais de chercher ensemble comment ils pouvaient évoluer, sans que les excès de la mondialisation ne les détériorent définitivement. Comment faire vivre cet écosystème culturel et le moderniser tout en préservant ses atouts? Trouver un juste équilibre pour une évolution durable? N'est-ce pas un beau challenge pour une ministre de la Culture? En Bulgarie, notre coopération lancée en 2010 a commencé par 5 ans d'études et de recherches de terrain initiées et pilotées par la professeure Sobona Francheva de l'université Unibit de Sofia. Elle a fait ce travail avec une équipe pluridisciplinaire bulgare. Ses travaux, ponctuellement élargis aux Balkans, ont été publiés avec la participation toujours de ma collègue Jeanne Montagnon, qui a coordonné toute cette coopération en France. Ils portaient sur les processus de revitalisation et de mise en valeur des centres historiques des villes, notamment de la capitale bulgare, Sofia. Ces travaux ont intéressé Madame la maire de Sofia, Yordanka Fandakova, et son équipe municipale, qui nous a demandé, afin de répondre à l'inquiétude des habitants sur l'avenir des patrimoines de sa ville capitale, d'initier sur ses bases un projet pour son centre-ville inspiré de l'expérience française. Nous avons ensemble, Bulgares et Français, commencé à engager une phase opérationnelle par un partenariat entre le maire du 3e arrondissement de Paris, incluant une grande partie du secteur sauvegardé, le 3e arrondissement, et la maire d'un des principaux quartiers historiques de Sofia, incluant le quartier du marché aux femmes. Ce partenariat fut porté par l'ambassade de France en Bulgarie et plusieurs personnalités, dont le sénateur Yves Dauge, avec la participation de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Mais, bon, hélas, la déraison politique a suspendu en 2018 cette coopération qui, je l'espère sincèrement, reprendra un jour. Sous la coordination et le pilotage de l'Observatoire de la Chine contemporaine à la Cité de l'architecture et du patrimoine, j'ai travaillé parallèlement depuis plus d'une vingtaine d'années et travaille encore avec plusieurs universités et villes chinoises, notamment l'université Tongji de Shanghai. Un prochain podcast sera pleinement consacré à ses 20 ans de coopération. Françoise Gède, responsable de l'Observatoire de la Chine contemporaine, et moi-même avions été invités en novembre 2014 par l'Académie d'urbanisme de Chine au niveau national pour le 30e anniversaire de sa section Villes et villages historiques. Plus de 200 architectes urbanistes de différentes villes du pays avaient été réunis pour l'événement. Il est important de préciser que nous n'avions pas été invités à parler de nos politiques métropolitaines, ni de nos lois et règlements de protection du patrimoine. Loin de là, nous avions été invités à parler des habitants et du travail de planification engagé avec leur participation en France. J'ai donc présenté plusieurs actions participatives exemplaires, notamment à Paris, celle de la ville de Paris sur la Petite Ceinture, et montré comment la ville est à l'écoute des associations de quartier pour construire un projet. J'ai invité chacun à aller se promener dans le Jardin du Ruisseau, situé à proximité de la Porte de Clignancourt. J'ai également parlé du recyclage de la voie express rive gauche entre la Tour Eiffel et le musée d'Orsay, et du projet sur la rive droite. J'ai introduit le sujet des tiers-lieux qui émergeaient à l'époque. À l'issue de ma présentation, le président de séance a affirmé que nos propos touchaient au cœur de la problématique urbaine actuelle de la Chine. Nombreux sont les architectes urbanistes chinois qui s'interrogent sur la manière de parvenir à maîtriser les excès de la mondialisation et à temporiser le bond en avant qu'ils n'arrivent plus à canaliser. Parallèlement, nos partenaires chinois ont montré un intérêt certain pour nos actions à l'échelle des territoires et des petites villes. Une question m'a interpellé. Cette question, c'est celle-ci. Comment la France, pays relativement centralisé, a pris en considération les particularismes régionaux ? J'explique. La Chine inclut de nombreuses minorités ethniques, aujourd'hui fortement bousculées par les effets de l'explosion économique et de l'ouverture à la mondialisation. Nos partenaires chinois, intéressés par notre expérience, nous ont interrogés pour savoir comment la Bretagne, par exemple, a-t-elle pu à la fois devenir une région moderne, développée, et à la fois préserver ses traditions et son identité. C'est une question qui nous interpelle. Au regard de l'analyse qui a été faite en France, des rapports difficiles entre le pouvoir central et certaines régions fortement identifiées comme la Bretagne, la Corse ou le Pays basque. Nous avions été appelés à travailler sur le sujet dans la région chinoise du Guizhou, qui concentre un nombre impressionnant de ces minorités, notamment les Miao et les Dong. Ces populations ont le droit à la modernité, mais ont également le droit au respect de leur identité. La question posée à nos partenaires chinois qui nous ont associés à leurs réflexions était « Comment faire en sorte qu'elles puissent vivre, évoluer sans perdre leur âme, qu'elles soient moins tentées de quitter en masse leur région pour alimenter en main-d'œuvre bon marché les villes-usines en périphérie des métropoles ? Comment maintenir en place ces populations ? Comment les responsabiliser ? Comment préserver ces cultures, ces modes de vie et leur permettre d'évoluer sans pour autant les détruire ? Quelle évolution pour une vie moins dure ? Vous pouvez trouver sur mon site www.alainmarinos.net un développement de ces coopérations internationales. Enfin, je terminerai en citant à nouveau le sénateur Yves Dauge, dans un texte qu'il a rédigé pour le Partenariat français pour la ville et les territoires. Ce texte est intitulé « La culture dans la ville ». En voici un extrait. Confronté à l'immense défi et à l'émergence de nouveaux enjeux, la dimension culturelle de la ville se dessine partout comme un marqueur fort. Exprimée en termes de gouvernance démocratique et participative, de souci du lieu et des identités locales, cette dimension a pris tout son sens dans la récente déclaration de Medellín au 7e Forum urbain mondial. Déclaration qui reconnaît l'impérieuse nécessité de considérer les diversités culturelles, institutionnelles et sociales. Ici, la France a les atouts et les moyens d'être force de proposition. Elle doit aussi, bien sûr, être présente sur les marchés, les appels d'offres pour la construction des équipements et des logements, mais elle le sera d'autant mieux si elle est d'abord porteuse de valeur et de créativité. Porteuse de valeur et de créativité. Voilà, ici comme à la fin du précédent épisode, que dire de plus ? Si ce n'est que je suis preneur d'informations sur vos expériences et vos commentaires en la matière. Merci donc pour votre écoute et à bientôt pour la suite, un nouvel épisode du podcast Où donc habitez-vous, dont vous découvrirez prochainement le sujet. Au revoir.